Honoré de Balzac. Illusion perdue. 35. Étienne et Lucien allèrent sur le quai Saint-Michel dans une petite maison à Allée où demeurait ce Chaboisseau, l'un des escompteurs de la librairie. Ils le trouvèrent au second étage, dans un appartement meublé de la façon la plus originale. Ce banquier subalterne, et néanmoins millionnaire, aimait le style grec. La corniche de la chambre était une grecque. Drapée par une étoffe teinte en pourpre et disposée à la grecque le long de la muraille comme le fond d'un tableau de David, le lit, d'une forme très pure, datait du temps de l'Empire où tout se fabriquait dans ce goût. Les fauteuils, les tables, les lampes, les flambeaux, les moindres accessoires, sans doute choisis avec patience chez les marchands de meubles, respirait la grâce fine et grêle, mais élégante, de l'Antiquité. Ce système mythologique et léger formait une opposition bizarre avec les mœurs de l'escompteur. Il est à remarquer que les hommes les plus fantasques se trouvent parmi les gens adonnés au commerce de l'argent. Ces gens sont, en quelque sorte, les libertins de la pensée. Pouvant tout posséder, et conséquemment blasés, ils se livrent à des efforts énormes pour se sortir de leur indifférence. Qui sait les étudier, trouve toujours une manie, un coin du cœur, par où ils sont accessibles. Chaboisseau paraissait retranché dans l'Antiquité comme dans un camp imprenable. « Il est sans doute digne de son enseigne, » dit en souriant Étienne à Lucien. Chaboisseau, petit homme à cheveux poudrés, à redingote verdâtre, gilet couleur noisette, décoré d'une culotte noire et terminé par des bas chinés et des souliers qui craquaient sous le pied, prit les billets, les examina, puis il les rendit à Lucien gravement. « Messieurs Fendant et Cavalier sont de charmants garçons, des jeunes gens pleins d'intelligence. Mais je me trouve sans argent, » dit-il d'une voix douce. « Mon ami sera coulant sur l'escompte, » répondit Étienne. « Je ne prendrai ses valeurs pour aucun avantage, » dit le petit homme dont les mots glissèrent sur la proposition de Lousteau comme le couteau de la guillotine sur la tête d'un homme. Les deux amis se retirèrent. En traversant l'antichambre, jusqu'où les reconduisit prudemment Chaboisseau, Lucien aperçut un tas de bouquins que l'escompteur, ancien libraire, avait achetés, et parmi lesquels brilla tout à coup, aux yeux du romancier, l'ouvrage de l'architecte du Cerceau sur les maisons royales et les célèbres châteaux de France, dont les plans sont dessinés dans ce livre avec une grande exactitude. « Me céderiez-vous cet ouvrage ?» dit Lucien. « Oui, » dit Chaboisseau, qui, d'escompteur, redevint libraire. « Quel prix ? 50 francs. « C'est cher, mais il me le faut. Je n'aurai, pour vous payer, que les valeurs dont vous ne voulez pas. » « Vous avez un effet de 500 francs à 6 mois. Je vous le prendrai, » dit Chaboisseau, qui sans doute devait à Fendant et Cavalier un reliquat de bordereau pour une somme équivalente. Les deux amis rentrèrent dans la chambre grecque, où Chaboisseau fit un petit bordereau à 6% d'intérêt et 6% de commission, ce qui produisit une déduction de 30 francs. Il porta sur le compte les 50 francs, prix du Ducerceau, et tira de sa caisse, pleine de beaux écus, 420 francs. « Ah ça, monsieur Chaboisseau, les effets sont tous bons ou tous mauvais. Pourquoi ne nous escomptez-vous pas les autres ?»«
Je n'escompte pas. Je me paie d'une vente, » dit le bonhomme.
Étienne et Lucien riaient encore de Chaboisseau sans l'avoir compris, quand ils arrivèrent chez Doria, où Lousteau pria Gabusson de leur indiquer un escompteur. Les deux amis prirent un cabriolet à l'heure et allèrent au boulevard Poissonnière, munis d'une lettre de recommandation que leur avait donnée Gabusson, en leur annonçant le plus bizarre et le plus étrange particulier, selon son expression. « Si Samanon ne prend pas vos valeurs, avait dit Gabusson, personne ne vous les escomptera. » Bouquiniste au rez-de-chaussée, marchand d'habits au premier étage, vendeur de gravures prohibées au second, Samanon était encore prêteur sur gage. Aucun des personnages introduits dans les romans d'Hoffmann, aucun des sinistres avares de Walter Scott ne peut être comparé à ce que la nature sociale et parisienne s'était permis de créer en cet homme. Si toutefois Samanon est un homme. Lucien ne put réprimer un geste d'effroi à l'aspect de ce petit vieillard sec, dont les os voulaient percer le cuir, parfaitement tanné, taché de nombreuses plaques vertes ou jaunes, comme une peinture de Titien ou de Paul Véronèse vue de près. Samanon avait un œil immobile et glacé, l'autre vif et luisant. L'avare, qui semblait se servir de cet œil mort en escomptant, et employer l'autre à vendre ses gravures obscènes, portait une petite perruque plate dont le noir poussait au rouge et sous laquelle se redressaient des cheveux blancs. Son front jaune avait une attitude menaçante. Ses joues étaient creusées carrément par la saillie des mâchoires. Ses dents encore blanches paraissaient tirées sur ses lèvres comme celles d'un cheval qui bâille. Le contraste de ses yeux et la grimace de cette bouche, tout lui donnait un air passablement féroce. Les poils de sa barbe, durs et pointus, devaient piquer comme autant d'épingles. Une petite redingote râpée, arrivé à l'état d'amadou, une cravate noire déteinte, usée par sa barbe, et qui laissait voir un cou ridé comme celui d'un dindon, annonçait peu l'envie de racheter par la toilette une physionomie sinistre. Les deux journalistes trouvèrent cet homme assis dans un comptoir horriblement sale et occupé à coller des étiquettes au dos de quelques vieux livres achetés à une vente. Après avoir échangé un coup d'œil par lequel ils se communiquèrent les mille questions que soulevait l'existence d'un pareil personnage, Lucien et Lousteau le saluèrent en lui présentant la lettre de Gabusson et les valeurs de Fendant et Cavalier. Pendant que Samanon lisait, il entra dans cette obscure boutique un homme d'une haute intelligence, vêtu d'une petite redingote qui paraissait avoir été taillée dans une couverture de zinc, tant elle était solidifiée par l'alliage de mille substances étrangères. « J'ai besoin de mon habit, de mon pantalon noir et de mon gilet de satin, » dit-il à Samanon en lui présentant une carte numérotée. Dès que Samanon eut tiré le bouton en cuivre d'une sonnette, il descendit une femme qui paraissait être normande à la fraîcheur de sa riche carnation. « Prête à monsieur ses habits, » dit-il en tendant la main à l'auteur. « Il y a plaisir à travailler avec vous. Mais un de vos amis m'a amené un petit jeune homme qui m'a rudement attrapé. »« On l'attrape, » dit l'artiste aux deux journalistes en leur montrant Samanon par un geste profondément comique. Ce grand homme donna, comme donnent les Lazzaroni pour ravoir un jour leurs habits de fête au Monte di Pietà, 30 sous que la main jaune et crevassée de l'escompteur prit et fit tomber dans la caisse de son comptoir. « Quel singulier commerce fais-tu ? » dit Lousteau à ce grand artiste livré à l'opium et qui, retenu par la contemplation en des palais enchantés, ne voulait ou ne pouvait rien créer. Cet homme prête beaucoup plus que le Mont de Piété sur les objets engageables. Et il a de plus l'épouvantable charité de vous les laisser reprendre dans les occasions où il faut que l'on soit vêtu, répondit-il. Je vais ce soir dîner chez les Keller avec ma maîtresse. Il m'est plus facile d'avoir 30 sous que 200 francs, et je viens chercher ma garde-robe, qui, depuis 6 mois, a rapporté 100 francs. Samanon a déjà dévoré ma bibliothèque, livre à livre. Et sou à sou, dit en riant Lousteau. Je vous donnerai 1500 francs, dit Samanon à Lucien. Lucien fit un bond, comme si l'escompteur lui avait plongé dans le cœur une broche de fer rougie. Samanon regardait les billets avec attention, en examinant les dates. Encore, dit le marchand, ai-je besoin de voir Fendant, qui devrait me déposer des livres? Vous ne valez pas grand-chose, dit-il à Lucien. Vous vivez avec Coralie, et ses meubles sont saisis. Lousteau regarda Lucien, qui reprit ses billets et sauta de la boutique sur le boulevard en disant « Est-ce le diable ?» Le poète contempla pendant quelques instants cette petite boutique devant laquelle tous les passants devaient sourire, tant elle était piteuse, tant les petites caisses à livres étiquetés étaient mesquines et sales, en se demandant « Quel commerce fait-on là ?» Quelques moments après, le grand inconnu, qui devait assister à 10 ans de là, l'entreprise immense mais sans base des Saint-Simoniens, sortit très bien vêtu, sourit aux deux journalistes et se dirigea vers le passage des panoramas avec eux pour y compléter sa toilette en se faisant cirer ses bottes. Quand on voit entrer Samanon chez un libraire, chez un marchand de papier, ou chez un imprimeur, ils sont perdus, dit l'artiste aux deux écrivains. Samanon est alors comme un croque-mort qui vient prendre mesure d'une bière. Tu n'escompteras plus tes billets, dit alors Étienne à Lucien. Là où Samanon refuse, dit l'inconnu, personne n'accepte, car il est l'ultima ratio. C'est un des moutons de Gigonnet, de Palma, Verbrust, Gobseck et autres crocodiles qui nagent sur la place de Paris, et avec lesquels tout homme dont la fortune est à faire doit tôt ou tard se rencontrer. Si tu ne peux pas escompter tes billets à 50%, reprit Étienne, il faut les échanger contre des écus. Comment? Donne-les à Coralie, elle les présentera chez Camusot. Tu te révoltes, reprit Lousteau, que Lucien arrêta en faisant un bond. Quel enfantillage! Peux-tu mettre en balance ton avenir et une semblable niaiserie? Je vais toujours porter cet argent à Coralie, dit Lucien. Autre sottise! S'écria Lousteau. Tu n'apaiseras rien avec 400 francs là où il en faut 4000. Gardons de quoi nous griser en cas de perte et joue! Le conseil est bon, dit le grand inconnu. À 4 pas de Frascati, ces paroles eurent une vertu magnétique. Les deux amis renvoyèrent leur cabriolet et montèrent au jeu. D'abord, ils gagnèrent 3000 francs, revinrent à 500, regagnèrent 3700 francs, puis ils retombèrent à 100 sous, se retrouvèrent à 2000 francs et les risquèrent sur pair pour les doubler d'un seul coup. Père n'avait pas passé depuis 5 coups, ils y pontèrent la somme. Un pair sortit encore. Lucien et Lousteau dégringolèrent alors par l'escalier de ce pavillon célèbre, après avoir consumé 2 heures en émotions dévorantes. Ils avaient gardé 100 francs. Sur les marches du petit péristyle à 2 colonnes, qui soutenait extérieurement une petite marquise en tôle, que plus d'un œil a contemplé avec amour ou désespoir, Lousteau dit en voyant le regard enflammé de Lucien « Ne mangeons que 50 francs. » Les deux journalistes remontèrent. En une heure, ils arrivèrent à 1000 écus. Ils mirent les 1000 écus sur Rouge, qui avait passé 5 fois, en se fiant au hasard, auxquels ils devaient leur perte précédente. Noir sortit. Il était 6 heures. « Ne mangeons que 25 francs, » dit Lucien. Cette nouvelle tentative dura peu. Les 25 francs furent perdus en 10 coups. Lucien jeta rageusement ses derniers 25 francs sur le chiffre de sonnage et gagna. Rien ne peut dépeindre le tremblement de sa main quand il prit le râteau pour retirer les écus que le banquier jeta. Il donna 10 louis à Lousteau et lui dit « Sauve-toi chez Véry !» Lousteau comprit Lucien et alla commander le dîner. Lucien, resté seul au jeu, porta ses 30 louis sur rouge et gagna. Enhardi par la voix secrète qu'entendent parfois les joueurs, il laissa le tout sur rouge et gagna. Son ventre devint alors un brasier. Malgré la voix, il reporta les 120 louis sur noir et perdit. Il sentit alors en lui la sensation délicieuse qui succède chez les joueurs à leurs horribles agitations, quand, n'ayant plus rien à risquer, ils rentrent dans la vie réelle et quittent le palais ardent où se passent leurs rêves fugaces. Il rejoignit Lousteau chez Véry, où il se rua, selon l'expression de La Fontaine, en cuisine, et noya ses soucis dans le vin. À 9 heures, il était si complètement gris qu'il ne comprit pas pourquoi sa portière de la rue de Vendôme le renvoyait rue de la Lune. Mademoiselle Coralie a quitté son appartement et s'est installée dans la maison dont l'adresse est écrite sur ce papier. Lucien, trop ivre pour s'étonner de quelque chose, remonta dans le fiacre qui l'avait amené, se fit conduire rue de la Lune et se dit à lui-même des calembours sur le nom de la rue. Pendant cette matinée, la faillite du Panorama dramatique avait éclaté. L'actrice effrayée s'était empressée de vendre tout son mobilier, du consentement de ses créanciers au petit père Cardot, qui, pour ne pas changer la destination de cet appartement, y mit Florentine. Coralie avait tout payé, tout liquidé et satisfait le propriétaire. Pendant le temps que prit cette opération, qu'elle appelait une lessive, Bérénice garnissait, des meubles indispensables achetés d'occasion, un petit appartement de 3 pièces au 4e étage d'une maison rue de la Lune, à 2 pas du gymnase. Coralie y attendait Lucien, ayant sauvé de toutes ses splendeurs son amour sans souillure et un sac de 1200 francs. Lucien, dans son ivresse, raconta ses malheurs à Coralie et à Bérénice. « Tu as bien fait, mon ange, » lui dit l'actrice en le serrant dans ses bras. « Bérénice saura bien négocier tes billets à Brolard. » Le lendemain matin, Lucien s'éveilla dans les joies enchanteresses que lui prodigua Coralie. L'actrice redoubla d'amour et de tendresse, comme pour compenser, par les plus riches trésors du cœur, l'indigence de son nouveau ménage. Elle était ravissante de beauté, ses cheveux échappés de dessous un foulard tordu, blanche et fraîche, les yeux rieurs, la parole gaie comme le rayon de soleil levant, qui entra par les fenêtres pour dorer cette charmante misère. La chambre, encore décente, était tendue d'un papier vert d'eau à bordure rouge, ornée de 2 glaces, l'une à la cheminée, l'autre au-dessus de la commode. Un tapis d'occasion, acheté par Bérénice de ses deniers, malgré les ordres de Coralie, déguisait le carreau nu et froid du plancher. La garde-robe des 2 amants tenait dans une armoire à glace et dans la commode. Les meubles d'acajou étaient garnis en étoffe de coton bleu. Bérénice avait sauvé du désastre une pendule et 2 vases de porcelaine, 4 couverts en argent et 6 petites cuillères. La salle à manger, qui se trouvait avant la chambre à coucher, ressemblait à celle du ménage d'un employé à 1200 francs. La cuisine faisait face au palier. Au-dessus, Bérénice couchait dans une mansarde. Le loyer ne s'élevait pas à plus de 100 écus. Cette horrible maison avait une fausse porte cochère. Le portier logeait dans un des vantaux condamnés, percé d'un croisillon par où il surveillait 17 locataires. Cette ruche s'appelle une maison de produits en style de notaire. Lucien aperçut un bureau, un fauteuil, de l'encre, des plumes et du papier. La gaieté de Bérénice, qui comptait sur le début de Coralie au gymnase, celle de l'actrice qui regardait son rôle, un cahier de papier noué avec un bout de faveur bleue, chassèrent les inquiétudes et la tristesse du poète dégrisé. Pourvu que dans le monde on ne sache rien de cette dégringolade, nous nous en tirerons, dit-il. Après tout, nous avons 4 500 francs devant nous. Je vais exploiter ma nouvelle position dans les journaux royalistes. Demain, nous inaugurons le réveil. Je me connais maintenant en journalisme. J'en ferai. Coralie, qui ne vit que de l'amour dans ses paroles, baisa les lèvres qui les avaient prononcées. En ce moment, Bérénice avait mis la table auprès du feu et venait de servir un modeste déjeuner composé d'œufs brouillés, de 2 côtelettes et de café à la crème. On frappa. 3 amis sincères, d'Arthez, Léon Giraud et Michel Chrétien, apparurent aux yeux étonnés de Lucien, qui, vivement touché, leur offrit de partager son déjeuner. « Non, dit d'Arthez, nous venons pour des affaires plus sérieuses que de simples consolations, car nous savons tout, nous revenons de la rue de Vendôme. Vous connaissez mes opinions, Lucien. Dans toute autre circonstance, je me réjouirais de vous voir adoptant mes convictions politiques. Mais dans la situation où vous vous êtes mis en écrivant aux journaux libéraux, vous ne sauriez passer dans les rangs des ultras sans flétrir à jamais votre caractère et souiller votre existence. Nous venons vous conjurer, au nom de notre amitié, quelque affaiblie qu'elle soit, de ne pas vous entacher ainsi. Vous avez attaqué les romantiques, la droite et le gouvernement. Vous ne pouvez pas maintenant défendre le gouvernement, la droite et les romantiques. Les raisons qui me font agir sont tirées d'un ordre de pensée supérieur. La fin justifiera tout, dit Lucien. Vous ne comprenez peut-être pas la situation dans laquelle nous sommes, lui dit Léon Giraud. Le gouvernement, la cour, les Bourbons, le parti absolutiste, ou, si vous voulez tout comprendre dans une expression générale, le système opposé au système constitutionnel, et qui se divise en plusieurs fractions, toutes divergentes, dès qu'il s'agit des moyens à prendre pour étouffer la révolution, est au moins d'accord sur la nécessité de supprimer la presse. La fondation du réveil, de la foudre, du drapeau blanc, tous journaux destinés à répondre aux calomnies, aux injures, aux railleries de la presse libérale, que je n'approuve pas en ceci, car cette méconnaissance de la grandeur de notre sacerdoce est précisément ce qui nous a conduit à publier un journal digne et grave, dont l'influence sera dans peu de temps respectable et sentie, imposante et digne, dit-il en faisant une parenthèse. Eh bien, cette artillerie royaliste et ministériel est un premier essai de représailles, entrepris pour rendre aux libéraux trait pour trait, blessure pour blessure. Que croyez-vous qu'il arrivera, Lucien? Les abonnés sont en majorité du côté gauche. Dans la presse comme à la guerre, la victoire se trouvera du côté des gros bataillons. Vous serez des infâmes, des menteurs, des ennemis du peuple. Les autres seront des défenseurs de la patrie, des gens honorables, des martyrs. quoique plus hypocrite et plus perfide que vous, peut-être. Ce moyen augmentera l'influence pernicieuse de la presse en légitimant et consacrant ses plus odieuses entreprises. L'injure et la personnalité deviendront un de ses droits publics, adoptés pour le profit des abonnés et passés en force de choses jugées par un usage réciproque. Quand le mal se sera révélé dans toute son étendue, les lois restrictives et prohibitives, la censure, mise à propos de l'assassinat du duc de Berry et levée depuis l'ouverture des chambres, reviendra. Savez-vous ce que le peuple français conclura de ce débat? Il admettra les insinuations de la presse libérale. Il croira que les Bourbons veulent attaquer les résultats matériels et acquis de la Révolution. Il se lèvera quelques beaux jours et chassera les Bourbons. Non seulement vous salissez votre vie, mais vous serez un jour dans le parti vaincu. Vous êtes trop jeune, trop nouveau venu dans la presse. Vous en connaissez trop peu les ressorts secrets, les rubriques. Vous y avez excité trop de jalousie pour résister au tollé général qui s'élèvera contre vous dans les journaux libéraux. Vous serez entraîné par la fureur des partis, qui sont encore dans le paroxysme de la fièvre. Seulement, leur fièvre a passé des actions brutales de 1815 et 1816 dans les idées, dans les luttes orales de la Chambre et dans les débats de la presse. « Mes amis, dit Lucien, je ne suis pas l'étourdi, le poète que vous voulez voir en moi. Quelque chose qui puisse arriver, j'aurai conquis un avantage que jamais le triomphe du Parti libéral ne peut me donner. Quand vous aurez la victoire, mon affaire sera faite. Nous te couperons les cheveux, dit en riant Michel Chrestien. J'aurai des enfants, alors, répondit Lucien, et me couper la tête, ce sera ne rien couper. Les trois amis ne comprirent pas Lucien, chez qui ses relations avec le grand monde avaient développé au plus haut degré l'orgueil nobiliaire et les vanités aristocratiques. Le poète voyait, avec raison d'ailleurs, une immense fortune dans sa beauté, dans son esprit, appuyée du nom et du titre de comte de Rubempré. Madame d'Espard, Madame de Bargeton et Madame de Montcornet le tenaient par ce fil comme un enfant tient un hanneton. Lucien ne volait plus que dans un cercle déterminé. Ces mots, il est des nôtres, il pense bien, dit trois jours auparavant dans les salons de Mademoiselle Destouches, l'avait enivré, ainsi que les félicitations qu'il avait reçues des ducs de Lonancourt, de Navarreins et de Grandlieu, de Rastignac, de Blondet, de la belle duchesse de Maufrigneuse, du comte d'Esgrignon, de Deslupeaux, des gens les plus influents et les mieux en cour du parti royaliste. « Allons, tout est dit, répliqua d'Arthez. Il te sera plus difficile qu'à tout autre de te conserver pur et d'avoir ta propre estime. Tu souffriras beaucoup, je te connais, quand tu te verras méprisé par ceux-là même à qui tu te seras dévoué. » Les trois amis dirent adieu à Lucien sans lui tendre amicalement la main. Lucien resta pendant quelques instants pensif et triste. Et laisse donc ces niais-là, dit Coralie en sautant sur les genoux de Lucien et lui jetant ses beaux bras frais autour du cou. Ils prennent la vie au sérieux, et la vie est une plaisanterie. D'ailleurs, tu seras comte, Lucien de Rubempré. Je ferai, s'il le faut, des agaceries à la chancellerie. Je sais par où prendre ce libertin de Deslupeaux qui fera signer ton ordonnance. Ne t'ai-je pas dit que, quand il te faudrait une marche de plus pour saisir ta proie, tu aurais le cadavre de Coralie ?